Chase you out of earth.
Il est 20h02 et tout de suite retrouver une nouvelle émission de Génération Sport.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio G au sein de Génération Sport. Nous sommes ravis de vous accueillir jusqu'à 21h pour parler de l'actualité sportive, qu'elle soit régionale, nationale ou internationale. Nous sommes ravis de vous retrouver après une semaine, enfin après deux semaines, sans émission pour ma part. Mais franchement, Faustin, Cédric et Amaury ont largement repris le flambeau la semaine dernière et c'était une émission de qualité. On est ravis de vous retrouver. On embrasse Cédric qui est à distance, notre wise man à tous, notre conseiller. Il a pris son jour off aujourd'hui, mais il sera de retour la semaine prochaine. Au menu de cette émission, on va bien évidemment parler de l'actualité régionale avec les résultats du week-end, que ce soit du foot, du rugby, du handball et du hockey sur gazon. Pourquoi on insiste encore plus sur le hockey sur gazon cette émission ce mardi? Eh bien, c'est parce qu'on reçoit aujourd'hui dans les locaux deux membres du club du SCO Hockey, dont on va évoquer longuement aujourd'hui dans l'interview. Vous aurez l'habitude qu'une fois tous les 15 jours, il y aura forcément un acteur ou une actrice ou plusieurs acteurs du sport angevin dans l'émission Génération Sport. Il y aura aussi également l'actualité internationale qu'on aura en fin d'émission avec notamment Amaury et Matteo. On aura une chronique aussi sur un personnage qui quitte le monde des médias aux États-Unis, une grosse personnalité du basket américain avec Faustin. Mais pour commencer, je vais vous présenter quand même l'équipe autour de la table, bien évidemment. On va commencer par Amaury. Comment vas-tu, Amaury ?
Eh ben, je vais super. J'espère que vous allez bien aussi. Un très beau week-end de sport, très beau week-end de foot, notamment belle semaine de foot, même complète avant. Et moi, le retour de Trash Talk, qui est une preview en 30 jours sur YouTube, ça me fait plaisir.
Ça fait plaisir à Faustin aussi.
Ouais,
aussi.
Voilà.
Il y a beaucoup de fans de basket autour de la table, donc forcément, oui, c'est une bonne chose. Je suis pas sûr que le week-end sportif, toi, t'as bien aimé dimanche soir, mais je suis pas sûr qu'il correspond fortement à Matteo.
Non, mais il y a pas eu de ça. Il y a eu plein d'autres choses.
Il y a plein de choses. Ouais.
Non, bonsoir Flo, bonsoir à tous. Bah, écoute, oui, ça a été une fin de week-end compliquée pour ma part. On a c'était compliqué de dormir dimanche soir.
Ouais.
Mais bon, écoute, les cours ont fait que on a dû se forcer à dormir et puis ça l'a fait. Non, je suis très content d'être là ce soir. On a une belle émission, ça commence à se structurer et c'est hyper intéressant. Donc voilà, on va pouvoir parler notamment du SCO hockey sur gazon. Donc ça va être super intéressant.
Ouais. Voilà. On rappelle à nos auditeurs, pour ceux qui ne savent pas, Amaury est supporter de Marseille et toi tu es supporter de l'Olympique Lyonnais. Bien évidemment, voilà, c'est pour ça que dimanche soir c'était un peu compliqué pour. Et
c'est pour ça que j'ai pas répondu au message de Amaury dans le groupe aussi.
Faustin est autour de la table, comment vas-tu Faustin ?
Salut Florian, salut tout le monde, moi ça va aussi très bien, très bon week-end de sport. Un peu moins pour moi parce que j'ai perdu mon match ce week-end, mais c'est pas grave, on garde la tête haute.
Exactement. Et bien évidemment, autour de la table, on va revenir vers eux dans quelques instants. Nous accueillons Emmanuel Leray et Antonin Perrault, deux membres du SCO Hockey. Bonsoir messieurs.
Bien le bonsoir à vous.
Ça fait plaisir de vous recevoir. On parlera avec vous dans quelques instants donc du club du SCO Hockey avec notamment Mathéo qui va diriger l'interview. On va évoquer rapidement quand même, plus en longueur quand même, les résultats du week-end en football, notamment le SCO en L1, un partout face à Nantes ce week-end. On en parlera en fin d'émission. Nous avons de la R1 aussi également avec la victoire de Beaucouzé 3-0 face à Sautron. Ils sont premiers de leur poule. Ex-aequo avec Le Mans en Régional 1, Beaucouzé. En Régional 2, Muret-Rigné s'est imposé 6-2 face à Spé. Muret-Rigné quatrième de sa poule. Saint-Brévin dans la même poule. Chalonne s'est imposé à Saint-Brévin 1-0. Chalonne est deuxième dans la poule B de R2. Nous avons Brissac-Aubance qui s'est imposé 4-1 à Saint-Macaire et Angers-NDC s'est imposé à Montreuil-Junier également 2-1. Brissac est quatrième, Angers-NDC sixième et Montreuil-Junier 11e dans la poule C. Pellois-Écorzé et Segrès se sont séparés par un 0-0. Pellois-Écorzé est 10e en R3. On descend un peu aussi en Régional 3. Saint-Sylvain d'Anjou s'est imposé 1-0 face à Laval. Saint-Laurent-Malvent s'est imposé malheureusement contre Angers Intrépide 2-1. Le foyer de Trélazé s'est incliné à l'extérieur à Clermont-Créance 3-2. Le Lion d'Angers s'est imposé 3-0 à l'extérieur à Poincé. Et la Croix-Blanche s'est inclinée à domicile face à Nantes-Lamélinée en R3, voilà le SCO Rugby qu'on avait reçu pendant les vacances, notamment pendant les Jeux Olympiques, avec le coach Victor Varas notamment, mais pas seulement. Ils sont imposés ce week-end à l'extérieur à Vitry, 39-18. Le SCO Rugby, pour l'instant, après deux journées, est en tête avec 10 points, avec deux bonus offensifs en plus. Donc c'est vraiment, ils sont vraiment le taf à l'extérieur, les joueurs du SCO Rugby. En handball, l'Angesco s'est incliné face à Massy 32-28. 15e et dernier avec 0 points de la Pro League. Tu veux nous en dire un mot ou pas, Amaury?
Alors, j'ai absolument pas pu voir le match, j'ai juste regardé les résumés. Mais il paraît qu'il y a eu du mieux par rapport à la semaine d'avant où ça avait été le score très, 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 très compliqué. Je me rappelle plus, 38-21 ou quelque chose comme ça. Mmh. Paru qu'il y a eu un peu de mieux. Maintenant, il va falloir aller chercher des points. Ce week-end, ce sera à domicile. Intérêt de prendre des points rapidement, sinon la saison peut être très longue.
C'est important d'aller les supporter, hein, d'aller supporter le score en balle. On rappelle qu'ils jouent dans l'ancienne salle des Ducs d'Angers. Donc,
Ohara,
exactement. Mmh. La place est à 6€ en plus. Donc, c'est vraiment abordable d'aller voir du handball. Parfois, il y a des sports qui deviennent payants, ou parfois c'est parfois forcément abordable pour tous. Là, c'est à partir de 6€ la place, donc vous pouvez aller supporter le SCO Handball. Ils en ont besoin et ça leur ferait plaisir, je pense, d'avoir un peu de supporters, un peu de bruit dans la salle du RAS tout au long de la saison. Et on va parler du hockey sur gazon avec malheureusement après le match nul lors de la première journée, la défaite à l'extérieur à Valenciennes, 4-1. Le SCO pour l'instant est 9e avec 1 point, mais on va en reparler dans l'interview avec toi, Mathéo, notamment.
Oui, c'est ça, c'est une nouvelle saison qui commence hein, pour les joueurs du SCO Hockey. Après une relégation suivie dans la foulée d'une nouvelle promotion, les Angevins joueront bien en N1 cette saison. Deux journées se sont jouées depuis. L'occasion pour nous déjà de dresser un bilan et puis également de revenir sur l'histoire du club qui vit en ce moment ses meilleures années. Avec nous pour en parler, comme tu l'as dit Flo en début d'émission, nous avons Emmanuel Leray, président du club, et puis également Antonin Perrault, responsable communication du club. Alors avant toute chose, messieurs, la traditionnelle question qui arrive, est-ce que vous pouvez nous expliquer les règles de ce sport pour les auditeurs qui ne sont pas encore familiarisés avec cette discipline?
Alors c'est effectivement une très très bonne question. Par similitude, c'est un sport qui se joue donc sur gazon 11 contre 11. On joue avec des chaussures plutôt du style randonnée avec des petits crampons sur un terrain synthétique mouillé maintenant, qui est homologué au notre terrain olympique d'Angers, donc est homologué dans ce sens-là. Et on joue avec des protèges tibias. C'est le minimum obligatoire. Ceci dit, on joue aussi avec des protège-dents, parce qu'un coup de crosse, malheureusement, peut rencontrer notre dentition et on peut perdre quelques petites connotes. Et sinon, oui, c'est en théorie donc un sport sans contact. Ça arrive qu'il y ait des contacts. La balle peut être dangereuse aussi. Alors c'est une balle de la grosseur d'une balle de tennis à peu près, avec la texture d'une bague de golf, qui fait à peu près 225 grammes de mémoire, d'après ce que j'ai cru entendre quand j'étais petit. Et 11 contre 11. La balle, alors paradoxalement, on a un cercle, un peu comme une balle. Ceci dit, il faut rentrer dedans pour que l'attaquant puisse mettre le but. A contrario, au handball, on n'a pas le droit de pénétrer dans cette zone-là. Nous, on est obligé de pénétrer dans cette zone-là pour mettre le but. Sinon, si on tire du milieu de terrain et qu'elle n'a pas été touchée par un attaquant ou à l'intérieur un attaquant dans cette zone-là, il n'y a pas but. Donc, c'est un peu la caricature. Donc là, on joue avec une crosse. On a le droit de jouer que d'un seul côté. C'est la particularité du hockey sur gazon. Parce que ce soit le floorball, le hockey sur glace, etc., on peut jouer des deux côtés de la crosse, par exemple.
C'est vrai, quand on dit hockey, on pense très souvent au hockey sur glace, peut-être parfois au roller hockey et puis au hockey sur gazon.
Exact.
C'est quoi les différences dans le jeu entre justement ces trois sports, ces trois disciplines?
Alors, je suis pas technicien des autres hockey, en particulier, je me suis amusé à aller voir le hockey sur glace. J'avoue que c'est passionnant, il y a plein d'actions. Ceci dit, les règles techniquement, je suis un peu perdu. Parce que c'est franchement différent. Alors, on a le hockey en salle, parce qu'on a deux saisons, hockey sur gazon et hockey en salle, lorsqu'il fait un peu froid, parce qu'en termes de dextérité des mains, etc., on est un peu congelé, donc on peut pas réellement jouer. Et nos terrains sont gelés, surtout puisqu'ils sont arrosés. Le hockey sur glace ressemble un petit peu à hockey en salle, chez nous, hockey avec des crosses plus fines, ou le floorball, etc. Mais ceci dit, on reste dans la technique de « je joue que du côté plat de la crosse ».
Maintenant, je pense que tout le monde a à peu près bien compris comment
ça,
on joue.
Ça, je sais pas, mais en tout cas, c'était très technique.
Bon, en tout cas, sinon, on vous invite à aller voir des
bien
vidéos
sûr.
Et puis à revisionner les matchs de l'équipe de France et puis à venir, sinon, voir le SCO hockey, bien évidemment. Mais ça, on en reparlera
bien sûr.
Tout à l'heure de la billetterie, des matchs de la saison. Alors, moi, j'aimerais refaire un petit point historique sur le hockey. Justement, le hockey sur gazon, c'est un sport qui est millénaire. On en retrouve déjà des traces en Égypte antique. Et puis après, sinon, on a une version moderne plus récente qui est celle que vous jouez, qui commence dans les années 1861 avec le premier club qui a été créé. Comment il est arrivé ensuite en France et surtout à Angers, ce sport, est-ce que tu le sais,
alors,
Emmanuel ?
Précisément, non. Il y a certainement. Alors, je sais que le hockey, on voit des matchs de hockey. Alors, j'ai fait le 14-18, les mémoires de 2014 à 2018 avec l'association des Canadiens, du souvenir lié aux Anglo-Saxons, que ce soit les Nouveaux-Zélandais, les Australiens, les Anglais eux-mêmes, qui, pendant leur pause avant les grandes batailles de 14-18, s'entraînaient, ok, que ce soit des femmes ou des hommes, et on les voyait encore jouer. Donc, je pense que l'arrivée en France est arrivée à ce moment-là, je pense. Très probablement.
Donc, avec les alliés, on va
ça.
Pas faire des cours d'histoire, mais.
Non, mais c'est très anglo-saxon, ouais. On le trouve partout dans toutes les colonies du Commonwealth.
Et sur Angers, du coup, quand est-ce qu'est arrivé le hockey?
Alors, dès avant 1921, avec des équipes, avec des clubs féminins aussi, on a des traces là-dessus. Ceci dit, le club du SCO, l'antenne. Alors, il y avait le SCO qui est de 1921, pour le SCO Omnisport à l'origine. Et l'antenne SCO hockey est arrivée à partir de 1923.
D'accord. Donc une vingtaine d'années après la création du championnat de France, vous êtes inséré quand dans le championnat de France justement?
Dans ces nobles années, ça je sais pas. J'ai SOS mon Joël Godin qui est notre livre d'histoire. C'est dommage qu'il soit pas là parce qu'il aurait pu vous répondre plus précisément. Là, je suis encore un peu jeune, même si je trouve que j'ai des pas de doigts au coin de mes yeux.
Bon, en tout cas, ça m'a permis quand même de bien comprendre, et puis ça nous a tous permis de bien comprendre l'histoire du SCO hockey jusqu'à en arriver aujourd'hui en National 1 cette saison. Vous êtes remonté. Quelle est l'ambition justement que vous avez par rapport à cette nouvelle saison?
Alors, l'ambition, elle est claire, c'est le maintien par rapport à il y a deux ans où on avait un effectif un peu léger. Ça, c'est une évidence. Là, on a pu recruter essentiellement dans le bassin des ligues des Pays de la Loire, des jeunes joueurs qui, par exemple, on a récupéré notre gardien de but qui jouait à Nantes en équipe 2, mais leur équipe est montée en élite, donc il a pas réellement sa place. Donc, par contre, il avait tout à fait les compétences pour jouer chez nous. Donc, faut que je retienne son prénom, mais c'est un super gardien.
Comment?
Thomas Alquier, c'est ça. On a récupéré un joueur de Carquefou aussi, qui est un très bon technicien. Donc, on est dans la région nantaise. Très bon technicien qui n'a pas forcément pu répondre aux exigences de l'élite. Parce que Nantes joue en élite. Hein. Nous, on est à un niveau juste en dessous. Hein. C'est l'équivalent de l'élite, c'est la L1. Nous, on est en L2, si vous voulez. On a récupéré aussi un jeune qui fait ses études à l'ESCA et qui est de Marc-en-Barœul. Parce que le nid, globalement, du hockey sur gazon en France, c'est Paris et le Schnorr. Parce qu'on est pas loin de la Belgique et des Pays-Bas. Et on a récupéré un autre joueur, j'ai un doute. Antonin, tu peux m'aider peut-être?
On a récupéré le buteur de Rennes, si je dis pas de bêtises.
Mathias, oui, c'est vrai. Le meilleur buteur de la N2 de l'année dernière.
Ah. Qui va sans doute bien vous aider, j'imagine. Comment est-ce que ça se gère justement le recrutement du côté du hockey sur gazon? Est-ce qu'on a des différences avec les autres sports?
Alors, il n'y a pas réellement de mercato, c'est le bouche à oreille, de manière informelle, de manière formelle ou moins informelle. C'est un peu délicat quand même. C'est vrai qu'on représente une certaine forme de graal sportif du fait qu'on joue en N1 hockey ou Ligue 2 pour que ça c'est du sens pour nos auditeurs. C'est attirer effectivement des joueurs sur un super support que nous avons. Terrain olympique fourni par la municipalité d'Angers il y a depuis quelques années. Et puis, c'est un niveau de jeu aussi qui est intéressant. Parce que c'est vrai que le championnat de National 2 aujourd'hui, dans les ligues de la Pays de la Loire, c'est 3 équipes. L'année dernière, c'était 4. Ça manque un peu de rivalité, d'intensité, de différence de jeu. Dans le Nord ou en région parisienne, ils sont à peu près à 12 équipes par N2, sachant qu'il y a 4 N2, parce que la France est divisée en 4.
Ouais.
Donc, la représentation du hockey pour nos petits qui jouent en N2, pour nos jeunes, ça pas réellement de sens. La N1 en est un, puisqu'en fait, il y a 12 équipes en France. Et donc, une bonne combativité et d'apprentissage, une notion d'apprentissage.
Et en termes de déplacement, en plus, pour le club, du coup, ça vous fait partir assez loin quand même, parce que du coup, là, ce week-end, vous étiez à Valenciennes. Ça vous fait traverser la France. J'imagine que par rapport à vos jeunes joueurs, c'est aussi une organisation à avoir. Et à mettre en place. Si quand tu dis découverte, c'est montrer aussi ce que c'est le haut niveau dans le hockey sur gazon, quoi.
Alors ça, c'est intéressant. C'est vrai que la notion de vie de famille pour les plus vieux, c'est un peu difficile, donc on négocie. Mais c'est un beau parcours de France. Ça, il y a une belle les lignes. On va pas souvent éviter la ligne Maginot, mais le Nord et la région parisienne, c'est vrai que c'est des sujets de conversation quasiment bi-week-end. Tous les deux week-ends, on est dans le Nord à peu près, parce qu'on reçoit un week-end sur deux.
Ouais. C'est assez énorme. Mais le prochain match ne sera pas dans le Nord, il sera à Bordeaux. On va y revenir un peu plus tout à l'heure. Moi, j'aimerais juste que vous nous parliez un petit peu des deux
contre
premiers...
les Bordelais.
Oui, contre les Bordelais.
Donc,
oui,
à la maison.
Oui, c'est vrai. C'est contre les Girondins. On pourrait y revenir aussi tout à l'heure sur le cas justement peut-être des Girondins. Est-ce que ça a eu un impact sur l'équipe de hockey, tout ce qu'on a vu au niveau du foot? On pourra voir ça tout à l'heure.
Corrélation, ça, je ne sais pas.
Ok. On a notre réponse du coup, mais concrètement, qu'est-ce qui ressort de ces deux premières rencontres? On a eu un match nul, une défaite 4-1 face à une belle équipe de Valenciennes. C'est quoi aujourd'hui les côtés positifs de ce début de saison et les côtés négatifs?
Alors, le gros côté positif, c'est qu'on a un banc. Et on avait 16 joueurs contre Calais, et ils étaient carbo Calais. Il nous fallait 2-3 minutes supplémentaires pour qu'on mette le pion supplémentaire. On était dominé sur un petit corner, donc c'est une phase de jeu arrêtée. Hein, et on a pris un pion, on était surpris. Ceci dit, on est bien remonté avec le plus vieux de notre équipe, Vivien. Et techniquement, enfin, je veux dire, il n'y a pas photo par rapport à notre précédente année en N1. Le banc, il est très fort. Enfin, c'est le point fort. Alors, techniquement, on n'a pas forcément les meilleurs joueurs. Mais notre force, c'est effectivement notre jeunesse, notre hargne, notre combativité et le sens de l'équipe, le sens de la fête aussi. C'est la fête du hockey chez eux. Quand je les vois faire leur préparation ou leur préparation de match ou à l'issue du match, il y a un esprit de corps. Ils ne sont qu'un, même si sur la feuille de l'avant-match, ils sont une vingtaine sur le banc potentiellement à prétendre à jouer.
C'est assez impressionnant, j'imagine, même les ambiances. Comment ça se joue dans le Nord? Est-ce que ça se prépare mentalement, justement, le fait de se déplacer dans des équipes comme ça?
Alors, la grande difficulté, alors, se déplacer dans le Nord, alors, on n'a pas de pomme comme gueule, on n'a pas de groupie, qu'on peut en trouver au football ou peut-être au hand quand tu sollicitais effectivement du public, puisque nous, on n'a pas de guichet. C'est ouvert. C'est libre. Ceci dit, on a à domicile, Antonin, t'as pu estimer à peu près à combien on avait de personnes autour du terrain quand on jouait à domicile?
À domicile, non, j'ai pas estimé la première journée contre Calais, mais On était entre 50 et 100 personnes, je pense. Je sais pas ce que t'en penses.
Ah, c'est essentiellement des passionnés. Et puis alors maintenant, avec les jeunes qu'on a recrutés, bah, les familles viennent de Nantes. Alors pas Marc-en-Barœul, je suis pas sûr qu'ils soient venus. Mais ça faisait un peu loin.
Ça fait un peu.
Comment ça se transmet justement sur Angers le hockey sur gazon? Est-ce que tout à l'heure tu nous parlais du bouche à oreille? Est-ce que ça se passe comme ça? Est-ce que c'est aussi la télé, les médias qui jouent un rôle?
Alors bon, il y avait exceptionnellement cette année donc les Jeux Olympiques qu'on accueillait. Les Jeux Olympiques donc ont joué, on a eu du hockey au stade Yves du Manoir à Paris du côté de Courbevoie. Ça c'était fantastique, une belle vitrine de hockey, un sport collectif, le premier sport collectif olympique. Ceci dit, nos équipes nationales n'ont pas performé. Est-ce qu'on a eu un retour sur investissement par rapport à la fédération? On était en réunion de ligue il y a 15 jours à peu près. Bah, c'est peanuts, hein, pas grand-chose, hein, c'est clair. Je pense que le développement du hockey, c'est quoi? C'est familial et c'est force de persuasion de nos agents de développement, éducateurs sportifs qui naviguent dans les écoles. Le sourire, opération séduction, opération différenciation, différence, esprit de corps, pas forcément le fair play aussi, c'est hyper important. Comment se dissocier des autres magnifiques offres de sportives qui se proposent dans l'Hexagone ou même sur Angers, c'est un gros challenge, hein, c'est une grosse bataille, c'est clair.
Il n'y a pas eu de retour, tu parles de retour d'investissement, il n'y a pas de retour médiatique. Ce que je veux dire par là, c'est, est-ce qu'il y a, on l'a vu avec le volet, on a reçu le volet il y a 15 jours, ils étaient même victimes de leur succès, parce qu'avec la performance aussi collective des garçons, avec la médaille d'or au bout, ça a fait un boom de licence. Est-ce que chez vous, il y a quand même eu, est-ce que vous avez pu sentir au moins un regain dans l'intérêt des licences ou pas?
Techniquement, non.
Non.
Je suis désolé, mais ceci dit, j'ai eu des gamins qui étaient OK l'année dernière avec nous, qui m'ont dit, mais je vais faire du ping-pong. Très bien, un sport individuel, j'adore. Par contre, tu restes OK avec nous.
Ah, c'est fou. Ah,
après, il y a les frères Lebrun, je pense. Ah,
c'est impressionnant. Ouais.
La magnifique aussi. Ouais. La différence entre, justement, quand ça performe et quand ça ne performe pas. Parce que, encore, l'équipe de France, ça reste quand même la 9e équipe mondiale.
Oui,
il y a une base.
Oui,
tout de même, elle a été sortie en phase de poule, donc derrière c'est assez compliqué.
C'est assez exceptionnel parce qu'il y a beaucoup de la majeure partie des joueurs de notre équipe de France jouaient à l'étranger, en particulier en Belgique, hein, plutôt en Wallonie ou puis francophone, peu importe. On parlait un peu français et c'est vrai que pratiquement plus de 50% étaient partis dans des gros clubs belges.
Ouais. Mais du coup, en fait, ça parle en termes de visibilité. Même là, pendant les Jeux Olympiques, je trouvais que même si il y avait par moments, en fait, j'avais l'impression que le hockey sur gazon servait un peu de bouche-trou entre tel sport et tel sport, parce que bon, il y a la médaille qui va jouer là, il y a l'autre médaille qui est en train de se jouer là,
et bon, il y a pas eu trop de matchs complets.
Ouais, il y a pas eu trop de matchs complets, c'est dommage, parce que il fallait je trouvais ça un peu dommage que, enfin, moi j'avais mon coup de gueule pendant les vacances, c'était j'aurais bien aimé que France Télévisions mette des créneaux par sport, en fait, qu'on aille les chercher, qu'on crée des chaînes éphémères pour 15 jours, mais au moins que le spécialiste ou le fan de hockey sur gazon qui peut pas forcément se déplacer ou qui a envie d'en voir puisse voir un match en entier pour s'intéresser et peut-être potentiellement voir quelque chose.
Alors cette frustration, je la ressens un peu, sachant que nous en tant qu'hockeyeurs, on avait toujours des pistes pour voir sur telle chaîne belge, telle chaîne australienne, etc. On avait moins les récupérer, mais le passionné de sport lambda était un peu, on lui servait simplement une demi-assiette de hockey.
Voilà, c'est
un peu ça en termes de pitance, quoi. Techniquement aussi, c'est pas forcément c'est pas forcément à la portée. Je me mets à la place de moi qui ne connais pas forcément le hockey sur glace. J'arrive dedans, il y a des choses, j'ai des zones noires de compréhension.
C'est aussi. Ça hyper visuel, je trouve, non plus à la télé, à regarder, comprendre les règles directement sans avoir, comme on a eu votre explication au début de l'interview. Si on n'a pas ça au début, c'est compliqué de voir à la télé et tout de suite comprendre ce qui se passe, comment ça se joue, tout ça.
C'est techniquement, c'est assez difficile. J'ai mémoire de copains de clubs de hockey qui étaient avec des gens qui ont pris au hasard des places de hockey. Et donc ils se faisaient donc le pédagogue de la rangée de des gradins et les gens kiffaient grave, quoi.
Ouais. Une fois qu'on a capté le truc, je pense c'est.
C'était Clément qui était allé voir du hockey sur gazon, il me semble,
Géo. Ouais, c'est Clément.
Un ancien chroniqueur
de l'émission qui avait pu voir ça.
Et moi j'ai entendu, j'ai connu une personne qui allait, qui me disait que c'était bien mieux à voir en vrai qu'à la télé. L'émotion, il y a des sports où on adore à la télé, on adore en vrai. Lui disait que quand il regardait à la télé, il avait pas vraiment cette émotion là. Par contre, quand il était au stade, il trouvait ça, c'était un sport qui était vachement intéressant. Je sais pas, c'est un truc qui est partagé.
Alors, est-ce qu'on voit un petit peu mieux la balle en vrai sur le terrain qu'à la télé? C'est vrai que la balle est petite. C'est pas énorme. Hein, et l'ambiance est comparable, j'aurais tendance à dire, à un match de rugby. Une bonne ambiance. Il y a pas de. Je connais pas trop. J'ai fait quelques matchs de foot, hein, pas trop. Mais c'est une ambiance bienveillante. Je vois encore des images de matchs de rugby où les Irlandais se serraient dans les bras avec n'importe quelle autre nationalité, en particulier les Français, mais sans animosité. C'est ça le hockey aussi, techniquement.
Et c'est ça qui a été hyper intéressant aussi pendant les JO. Est-ce que vous avez vu justement les hockeyeurs français, même en global, porter ces valeurs, même vous? Est-ce que vous vous êtes rendu sur place et vous avez vu cela?
Alors, on a eu la chance, par l'intermédiaire de la fédération, en tant que dirigeant de club, d'avoir des places offertes, au même titre que les anciens qui ont vécu les Coupes du Monde et les Jeux Olympiques. C'est une ambiance phénoménale. Moi, j'ai assisté effectivement à de Nouvelle-Zélande, Inde. Mais les Indiens mettaient un bazar pas possible, bienveillant, on est les meilleurs, etc. Vous allez voir, ils vous mettent une volée, etc. Mais gentiment, avec le sourire, c'était, il n'y a pas de climat, enfin, il n'y a pas d'agressivité. Et puis, des déguisements. Déguisements de un peu comme au festival de Dunkerque, un petit peu parfois, c'est un peu ça, quoi.
Okay. Et donc, c'est vraiment une culture à part entière, le hockey sur gazon, finalement.
Alors, on le voit particulièrement dans les différents stades, tels qu'aux Pays-Bas. Champion olympique femmes et hommes, c'est une culture, quoi. C'est des clubs à 1000 adhérents et mixtes en plus. Parce que social, d'un point de vue sociétal, c'est hyper intéressant.
Et est-ce que là-bas, justement, il y a eu un impact des Jeux olympiques par rapport au nombre de licenciés, ou c'est vraiment un sport populaire qui restera sur la même ligne?
Alors, je crois que le hockey sur gazon est situé après le foot, mais je suis pas sûr qu'ils avaient besoin de publicité. Ils sont blindés en termes de clubs. Je sais qu'en Belgique, c'est aussi un peu pareil. Ils refusent du monde. Ils sont obligés de créer un autre terrain à côté. Tellement il y a cette euphorie de Pays-Bas, Allemagne et puis Belgique.
On n'a pas cet équivalent-là en France? Non. Pas Lille, non. Par exemple, Lyon, je sais que c'est des bonnes équipes.
Ah oui, il y a deux, trois clubs à Lille. Il y a le Luc Ronchin, il y a le Iris Lambersart, il y a le Liloc aussi. Et chaque club dans cette préfecture de Lille, Lilloise, là, c'est 200-300 adhérents. C'est énorme. C'est parmi les plus gros clubs.
On va reprendre l'interview dans quelques instants. L'interview du SCO Hockey. On a encore plein de questions à leur poser. Quitte à déborder, parce qu'on a vraiment, on est vraiment envie de continuer à découvrir ce sport et découvrir le club qui est le SCO Hockey. On fait la petite pause musicale, Faustin, avec le titre de FC 25, qui va sortir vendredi ou pas?
Bah ouais, qui est même déjà sorti pour
C'est vrai.
Pour l'édition ultime, j'ai eu la chance d'y jouer. voilà, j'ai un Pedri, un Hakimi à mon compteur.
Bon, c'est bien.
Enfin bref, du coup, ce sera Apple Juice des
Teddy Swims. Apple Juice de Teddy Swims sur Génération Sport, enfin dans Génération Sport sur Radio G, c'est la musique du jeu FC 25 qui sort vendredi et que Mathéo a déjà joué, donc en avant-première, c'est magnifique pour lui.
Oui, moi j'ai pas acheté le jeu.
T'as dit Mathéo.
Ah, j'ai dit Mathéo, mais c'est Faustin. C'est Mathéo qui va reprendre l'interview du coup pour le SCO Hockey. Allez.
Exactement.
On a encore des questions en plus.
Eh ben, on a plein de questions et justement, il y a un petit point, on en a discuté un petit peu hors antenne sur lequel je voulais revenir tout à l'heure. J'ai parlé très vite fait des Girondins de Bordeaux. Je voulais expliquer un truc que j'ai très mal expliqué, donc on va pouvoir y revenir. Ce travail justement d'antenne, le nom que vous portez, alors que vous n'êtes pas du tout la même entité que le club de foot, par exemple, qui est le club le plus populaire. Donc Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette différence?
Alors donc le SCO Foot a son entité, c'est une entreprise. Et nous, on est SCO Hockey avec d'autres entités, comme vous parliez tout à l'heure du SCO Volley. Donc en fait, on est affilié à l'Union, le SCO Omnisport. À l'origine, c'était des sections sportives, hockey, hand, etc. Foot aussi. Bon, le football est parti. Il y a eu une partie amateur, mais qui a pas duré. Et donc il y a du vromball, il y a plein de sections. Il y a le SCO triathlon qui est rentré chez nous. Mais en fait, ce sont des structures juridiques distinctes, hein, à loi 1901 associative, qui ont leur entité juridique. Et le fait de s'affilier au SCO Omnisport donne une certaine forme de notoriété au même titre que de porter aussi le nom du SCO Foot. C'est-à-dire que géographiquement, lorsqu'on parle du SCO, lorsqu'on va à Tataouine, on va à Marseille, on va dans le Nord, on est reconnu, on est connu. On a une certaine force de notoriété aussi. Et de négociations peut-être vers des partenaires qui veulent potentiellement nous aider aussi. Hein.
Le message est passé.
Ça sert à ça l'émission. De toute façon, l'émission sert aussi à ça. Donc pour la communication et pour le développement du club, c'est sûr que ça peut aider, on peut aider un peu à notre petite échelle d'aider les clubs, ce serait vraiment pas mal.
Et justement, est-ce que à ce niveau-là, pour l'appellation, est-ce qu'on a des contraintes, par exemple sur le côté artistique, la création de logo,
Alors, je sais que le SCO Foot a un logo bien spécifique. Il faut pas trop que la charte graphique coïncide avec celle du SCO Foot, sinon, bah, il y a une notion de brevet qui intervient, et donc on peut potentiellement être accusé de copiage, de plagiat, et donc il y a une armée de d'avocats qui vont se mettre en marche probablement pour ceci. Donc on fait attention, on sollicite, on soumet, etc. Moi, je sais que c'est déjà arrivé avec d'autres sections du SCO Omnisport avec un logo qui ressemblait étrangement à celui du SCO Foot.
Et c'est aussi pour ça que nous, depuis le nouveau logo qu'on a refait il y a quelques années, on a de la couleur bleue qui est apparue, qui était présente dans aucune section du SCO Omnisport, et maintenant on a du bleu qui est dans le logo et dans notre charte graphique, pardon.
Et puis pour les auditeurs qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller sur leur réseau voir ce logo justement, il est assez beau. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de le regarder, les gars, mais il est vraiment beau. Moi, il y a un sujet qu'on n'a pas pu aborder encore, que je voulais aborder, c'est on l'a survolé, on va dire, l'école de hockey que vous avez mis en place justement pour porter ces valeurs dès le plus jeune âge, et puis derrière aussi faire un travail de formation pour pourquoi pas intégrer votre équipe deux et puis votre équipe première également. Expliquez-nous cette école du hockey, à quoi elle sert?
Alors l'école de hockey, c'est des entraînements tout au long de la semaine, de différentes catégories d'âge. Elle a besoin de se nourrir, c'est clair, d'être grossie. C'est la raison pour laquelle on a un éducateur sportif qui travaille hebdomadairement dans toutes les écoles. Là en ce moment, il est en pleine prospection, opération séduction des directeurs, des directrices des écoles primaires, parce que plus petit on commence le hockey, meilleur on est. C'est pareil, c'est comme les nageurs, vous prenez Léon Marchand, il a pas commencé à l'âge qu'il a, hein. Oui. C'est clair. Donc il y a une certaine forme de dextérité à avoir pour le hockey, de vision du jeu, etc. Donc on attaque dès les alors, grande section matérielle, ça fait peut-être un peu juste, mais à partir du CP jusqu'au collège.
CM2, collège, ouais.
Jusqu'au collège. On a des axes de travail. C'est-à-dire que Jocelyn, notre nouvel éducateur, propose des cycles de 6 séances avec les maîtresses et dans leurs cours. Donc on a des écoles carrément qui nous sollicitent pour 4-5 niveaux, hein, du CE1, CE2, CM1, CP parfois. Et donc ça, il y a toute une articulation d'agenda à faire. Donc c'est des cycles de 6 séances d'une heure à peu près. On a d'autres articulations aussi, parce qu'il y a les collèges publics en particulier, mais ça existe aussi dans le privé, qui cherchent à recruter des futurs sixièmes pour gonfler leur effectif.
collectif aussi, parce que sinon c'est des classes en moins, etc. C'est des grèves d'enseignants, qui des parents qui prennent les poteaux, etc. Donc en fait on a des liaisons école collège. Et en fait ce qu'on utilise nous, c'est que on utilise le hockey comme véhicule, comme produit d'appel. C'est-à-dire qu'au sein du collège, alors je suis enseignant aussi et je mets ça en place. Et c'est-à-dire que toutes les écoles du secteur du collège Jean Monnet où j'enseigne, eh bien participent à un projet commun. Avec trois activités, on fait du hockey, on fait du secourisme et on fait des études sur documentaires au CDI. Donc ça permet aux futurs sixièmes d'intégrer le collège, de faire de l'EPS, et en plus nos sixièmes sont formés en au préalable pour tutorer nos sixièmes, c'est-à-dire qu'ils travaillent ensemble, c'est-à-dire qu'ils ont des parrains avant de rentrer au collège. Et donc c'est super parce qu'il y a ça désacralise l'établissement, le nouvel établissement. J'ai peur, maman, et des grands patati patata. Et donc, à travers des activités, donc, en l'occurrence, le hockey, le secourisme, et puis le CDI et la cantine, parce qu'on les invite à la cantine aussi souvent. Ils se sentent en sécurité. Et les parents aussi. Il y a un gros choix aussi par rapport à ça.
Et puis on en fait des citoyens aussi. Il y a aussi le secourisme, le fait aussi d'aller voir la documentaliste, d'aller au CDI. Donc du coup, c'est vrai que on fait les citoyens de demain grâce au sport.
Exactement. Et puis le hockey en particulier. Alors ceci dit, le développement du hockey aussi, c'est dans notre club, il y a plusieurs facettes. On a mon ami qui est éducateur sportif à l'IM Pro de Montplaisir aussi. On a donc un projet double H. Double H, c'est quoi? C'est l'insertion, faire en sorte que les personnes, alors c'est plutôt en sport adapté, hein, des enfants qui ont une certaine forme d'handicap, telle que la trisomie 21, etc. Et donc on invite par cycle régulièrement, souvent pendant les vacances scolaires, tous les IME du Maine-et-Loire et nos joueurs de 14, 16 ans, parce que techniquement, ce sont des enfants, enfin des jeunes qui peuvent avoir 21 ans. Donc, si on met un petit, il n'a pas la maîtrise, effectivement, de ses gestes, etc. Surtout avec une crosse. Bien sûr. Crosse levée au-dessus des épaules, c'est peut-être un nez cassé ou une dent cassée aussi. Et donc, on les invite et on a des subventions potentielles aussi et on a offert des crosses à chacun de ces IME pour véhiculer notre sport. Et avec l'objectif de créer des équipes dans le sport adapté et de faire en sorte que nos jeunes du SCO soient sélectionnés dans l'équipe nationale de sport adapté. Alors c'est toute une mission, c'est un gros projet parce que ça se monte pas tout de suite. C'est vraiment un projet de
long terme.
Pas de long terme parce que je veux dire entre 5 et 10 ans aussi. Parce que l'éducateur Stéphane, mon pote là qui bosse à l'IME, donc travaille et c'est éprouvant d'être des jeunes, faut être vigilant à 100%. Il en a que 10. Donc là c'est prolonger ça aussi à travers ces week-ends au niveau fédéral et au niveau international.
C'est un projet que vous portez depuis longtemps.
Depuis que Stéphane est là, oui, c'est clair, on intervient régulièrement c'est ce que je disais la dernière fois avec Antonin, c'est que nos jeunes qui ont 12, 13, 14 ans, lorsqu'ils viennent sur notre terrain, ils sont sans filtre. Mon copain, je te serre dans les bras, c'est fantastique. Et les enfants n'ont pas forcément l'habitude d'avoir des enfants qui sont si généreux entiers dans une activité physique. C'est fantastique, c'est que du bonheur.
Depuis tout à l'heure, on parle valeur hockey sur gazon. Est-ce que justement, quand on travaille avec des jeunes comme ça, on les voit qui ressortent naturellement, finalement, sans besoin qu'on les éduque à quelconque valeur sportive?
Je sais pas, parce que quand Stéphane amène ces jeunes ou les autres, ses autres collègues éducateurs sportifs, c'est leur objectif, c'est quoi? C'est, alors ils ont des directives un petit peu associatives quand handicap en joue pour l'IME, c'est favoriser, et même des directives ministérielles, c'est intégration un maximum. Alors c'est vrai que ça diminue le nombre de d'enfants qui sont dans les structures spécialisées, mais il y a un tel bonheur. Après ça nécessite des gens compétents et formés aussi, mais c'est magique. C'est magique.
On va partir sur un autre sujet, mais enfin ça va se rejoindre sans se rejoindre aussi également. Mais on parle du développement du club et là c'est un axe de développement du club pour essayer aussi de se différencier des clubs aux alentours et même d'autres clubs de hockey dans d'autres régions, aussi de montrer que le SCO travaille différemment ou a des axes de progression. Mais on parlait en off tout à l'heure avant l'émission de ce terrain donc olympique qui a été donc amené par la municipalité. De mémoire, je me souviens, si je me souviens bien, quand je venais faire deux trois articles sur le SCO hockey, on m'expliquait que parfois en fait avoir ce terrain c'était indispensable si on voulait monter au plus haut niveau. Est-ce que ça fait toujours partie des prérogatives de la fédération d'avoir un outil comme le vôtre, ce que vous avez actuellement?
Alors, c'est vrai que si le terrain est homologué, les compétitions nationales, internationales, sont, sont d'office centralisées sur ce genre de piste. Nous, en N1, si on n'avait pas de terrain synthétique mouillé, je suis pas sûr qu'on puisse monter. Et déjà, ça tirait pas forcément les joueurs, d'emblée. Donc, en fait, c'est une alchimie entre les joueurs qui veulent jouer dessus, parce que c'est assez accidentogène, ce qu'on avait avant, que tu as connu lorsque tu faisais des piges, effectivement, sur le bord du terrain, un terrain très dur, sablé, et puis on venait écorcher systématiquement à la moindre chute. Alors que là, on peut faire des glissés, donc il y a un petit côté spectaculaire aussi.
Et alors après, c'est voir à long terme, mais demain, est-ce que si vous montez en élite un jour, il y a d'autres prérogatives comme ça à respecter ou pas?
Il faut qu'on ait des tribunes, il faut qu'on ait aussi une tour de vidéo. Là, on est encore un club artisan. Là, on a un ami qui nous prête un échafaudage de maçons qu'on monte et qu'on démonte systématiquement avant chaque match et juste à l'issue, parce que on doit avoir une obligation de filmer
le match
avec une retransmission dans un délai et un carcan
heures,
technique, c'est 4 fois 15 minutes.
Non, mais c'est 2 heures, là, dans un délai de retransmission de...
Oui, un délai, je crois, c'est dans les entours de 2 heures, ou avant minuit, quoi. Sinon, on se transforme en citrouille.
D'accord, ok.
Ah, mais c'est une amende de 200 euros, quoi, c'est pas transmis en temps et en heure.
Il y a vraiment des prérogatives pour pouvoir jouer à ce niveau-là, actuellement, en national.
Et donc, on dynamise tous les membres du club bénévole pour qu'ils œuvrent en fonction de leurs compétences.
Puis je peux me permettre de rajouter, mais pour la montée en élite, il y a aussi un côté financier. Enfin, Emmanuel saura mieux en parler que moi, mais l'élite, c'est des déplacements. Oui. Il n'y a pas que le Nord, Paris, il y a d'autres déplacements, et ça a un coût, les déplacements aussi.
C'est 12 000 euros pour notre équipe première, là, le planifié.
Mais j'ai vu aussi également que c'est quand une équipe vient jouer chez vous, donc là, Bordeaux va jouer, c'est vous qui payez les frais d'accueil, c'est ça?
Pour les tournois, on paye les frais d'accueil de tout le staff.
D'accord.
Mais là, en fait, tout le staff est fourni par le club.
Ok.
Pour les tournois, essentiellement. Là, qu'est-ce qu'on paye? On paye les arbitres.
Ouais.
On a un forfait arbitraire je sais pas si je me rappelle plus du prix, je crois que c'est 500 ou 600 euros. Et à chaque fois, on paye les arbitres 65 euros, par tête de pipe. On va les chercher à la gare s'ils arrivent en train. On peut les héberger si besoin. Après, c'est surtout le poste transport, c'est 12 000 euros minimum, quoi.
Ouais, donc c'est quand même un assez gros budget, en tout cas. Et là, on parlait de ce terrain olympique qui est homologué pour les compétitions nationales et internationales. Est-ce que le SCO a l'ambition de participer à l'organisation ou d'organiser donc des compétitions nationales ou internationales?
Au niveau national, déjà. Enfin, là, on a des événements qui arrivent. On a notamment le week-end du 23-24 novembre. On accueille le tournoi de National 2 féminine. Donc en fait, au SCO Hockey, là, on a notre équipe féminine qui est en association avec celle de La Rochelle. Et donc la N2 féminine, elle se compose avec 4 week-ends de tournois dans l'année. Et donc le 23-24 novembre, nous, on accueille un tournoi, un des 4 tournois. Et donc s'il y a des auditeurs, qui veulent nous venir ce week-end-là, c'est avec grand plaisir en tout cas.
Ouvert à tous.
Bien sûr.
Derrière le stade de Roger Mitulliac, c'est ça.
C'est ça, le long de la 4 voies, là, on voit le.
Exactement, on le voit le terrain.
On voit les couleurs bleues de la ville d'Angers.
Exactement.
Rouge et bleu.
Mais c'est vrai que ce terrain est vraiment. J'invite vraiment tous les auditeurs à venir. Alors, s'ils vont se promener au lac de Maine ou quoi que ce soit, allez faire un tour sur le terrain. Il est vraiment magnifique, ce terrain. Je trouve que par rapport à ce que vous aviez avant et maintenant ce qu'il y a maintenant, ça change vraiment la vie pour ce club et je trouve que c'est un bel écrin.
Alors, on remercie régulièrement Monsieur Béchu qui l'a inauguré il y a quelques années.
Bien sûr. Mathéo, est-ce qu'on a encore quelques questions à poser?
J'en avais une dernière parce qu'on n'a pas pu en parler encore. C'est le changement au niveau comptable, un petit peu, surtout au niveau des équipes en National 1 cette saison, ou en tout cas à la fin de cette saison, puisqu'on a 3 équipes qui descendent au lieu de 1.
Oui.
Donc, comment est-ce que vous abordez cela? Est-ce que vous voyez ça plutôt comme un défi? Ou est-ce que justement ça va être une expérience qui va souder le groupe?
Alors, est-ce que vous l'abordez? J'ai une lueur positive par rapport à l'effectif que l'on a. On a un très bon entraîneur qui est Romain Mignogno et qui se donne les moyens, qui travaille sur l'esprit de corps, d'osmose de l'équipe. Après, on a des jeunes aussi qui se battent parce qu'on leur a dit, les gars, vous montez en N1, le club financièrement il va avoir du mal. C'est clair, pour finir l'année. Et ils se démènent tous. Et donc on a aussi dans l'orientation du développement du club, quand tu me disais qu'on veut aller en élite, bah, très bien, mais il faut se donner franchement les moyens, quoi. Et tout le monde doit se battre, du plus petit au plus grand. C'est la raison pour laquelle aussi on a embauché un alternant qui se focalise sur tout ce qui est mécène, sponsor et subvention. On a pris donc Antonin en communication, qui est en L3, donc à la Cato, pour montrer qu'on existe, attirer. Et on n'a pas le choix. On n'a pas le choix.
C'est le nerf de la guerre, en fait.
C'est le nerf de la guerre. Ouais. On a besoin d'un maximum de parrains, de mécènes pour avoir des maillots décents, représentant nos partenaires, etc.
Et par ailleurs, je me permets de rajouter, mais on a lancé un appel aux dons même pour financer la saison de 2024-2025 pour se permettre les déplacements qu'on a en N1 et tout le reste de la vie du club.
Et le renouveau de notre équipe féminine, parce que jadis, il y a quelques années, il y a plus de 10 ans, elle jouait en deuxième niveau national. Les filles sont parties, donc on n'avait que du masculin. Et donc là, on retrouve une équipe féminine, ça c'est top. Ouais. Parce que c'est, je dirais que des filles et des garçons dans un club, eh bien c'est quelque chose de magique. Il y a une synergie qui se crée en même temps, socialement parlant en plus.
Dernière question, rapidement, que j'ai en tête. On parlait de licence, l'effet licence après les Jeux. Est-ce qu'il y a un effet mécène après les Jeux?
Antonin, je sais pas si toi tu l'as ressenti. Je pense que l'effet mécène est plutôt acté, orienté du fait qu'on soit en N1. Ça me paraît évident. Qu'on appartienne au SCO, on en reparle encore. C'était l'année ou jamais où il fallait faire le forcing pour en termes d'alternant dans ce domaine-là avec Antonin qui travaille sur la communication à fond, quoi. On n'avait pas le choix. C'est la N1 et nos efforts par rapport aux emplois aidés ou pas aidés qu'on a mis en place.
Oui, je pense que l'effet des JO, ça se ressent plus après lorsqu'un partenariat est signé. On dit ah bah est-ce que vous avez regardé les JO, est-ce que vous avez regardé le hockey aux JO. Et c'est là qu'on en parle. C'est pas avant le partenariat ou avant le mécène, en fait.
Ouais, c'est assez intéressant. Comme situation, on verra. En tout cas, on espère pour vous que la saison sera belle et bonne et que ça commence et qu'on.
Bah, faut pas qu'on finisse dans les trois derniers. C'est
exactement.
Tout. C'est clair.
Et que le SCO aille chercher la victoire ce week-end face à Bordeaux.
Dimanche à 15h au Stade du Lac de Maine.
Exactement. Voilà. Bah, merci beaucoup Emmanuel. Merci beaucoup Antonin d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
On reste ensemble encore.
Oui, bien sûr.
Pour les dernières minutes de l'émission, on va passer maintenant aux actus internationales. Mais avant cela, on va quand même passer la main à Faustin, puisqu'il avait quand même quelque chose à dire, à moins que Mathéo, tu l'avais intégré dans le journal international?
Non, pas du tout.
Pas du tout, et on va passer la main à Faustin, du coup, avec la... Alors, c'est pas la disparition, il s'est retiré...
La retraite.
La retraite d'un célèbre journaliste sportif américain, un célèbre insider qui avait toutes les infos avant tout le monde.
Exactement, c'est un grand monsieur de la NBA qui prend sa retraite, et non, ce n'est pas encore LeBron James, comme le pourraient le croire nos auditeurs, mais c'est bien Adrian Wojnarowski, autrement dit... Le Woj, il est connu des plus grands fans de NBA et un peu moins du grand public. Il était le plus grand reporter insider de la NBA. C'est lui qui annonçait toutes les plus grandes nouvelles en termes de trade ou de prolongation de contrat. Et sa dernière Woj Bomb était donc sa propre Woj Bomb. Voilà, de son annonce de sa retraite. Il se retire de son métier de journaliste insider. Ça fait un manque. Je ne sais plus où trouver mes infos, je ne sais plus où regarder. Évidemment, j'extrapole, je sais un peu, mais
ouais, je sais bien.
Mais voilà, c'était en grande partie lui qui servait tous les médias. Vraiment, c'était un truc de ouf. Et les Woj Bomb étaient ultra connus, on les attendait.
À chaque été, c'est sûr que dès que
les trade deadline, ça fusait sur Twitter. On attendait que ça, et c'est fini.
C'est fini. Bah maintenant, il y aura Shams Charania qui est tout seul, maintenant, qui était son concurrent. Et c'est lui qui va annoncer tous les transferts à NBA maintenant à l'avenir. Bon, après, il y aura peut-être quelqu'un qui va l'emplacer. Qui sait, Faustin viendra aux États-Unis, va nous lancer
des contacts.
T'as des contacts sur les joueurs français draftés récemment. En plus, on verra si on pourra donner des informations dans Génération Sport, en tout cas. On passe maintenant au journal international avec vous, Mathéo, avec toi, Mathéo, et aussi avec toi, Amaury.
Ouais, on commence ce journal par quelques résultats sportifs, à commencer par le football. Notre bonne vieille Ligue 1 a vécu quelques rencontres renversantes ce week-end, avec tout d'abord la victoire de Nice en ouverture 8-0 contre les Stéphanois. Historique, mais dans le mauvais sens du terme pour eux. Première fois depuis 1996 qu'une équipe encaisse 6 buts en une mi-temps. Une première au XXIe siècle. La dernière fois, c'était donc au siècle précédent, lors d'un match qui a vu Lyon planter 7 buts en 35 minutes à Marseille pour un triplé de Ludo Djuli. Voilà, est-ce que autour du plateau vous avez vu le match, est-ce que ça vous parle ce Nice ASSE Saint-Étienne?
Bah on va une petite pensée quand même pour Cédric qui lui pensait que le match était truqué à la mi-temps, il nous avait envoyé un message. Voilà, conversation de 2 ans, ça fait 6-0 les garçons. Ça sent le pari truqué, mais non, pour l'instant, il n'y a pas eu de...
Non, c'est bien 8-0.
Ouais. Non, c'est bien 8-0.
Exactement. Bon, on va rester sur l'Olympico, en tout cas, puisqu'en clôture de cette cinquième journée, se jouait la rencontre entre Lyon et Marseille. Un choc des Olympiques qui a tenu toutes ses promesses, d'abord réduit à 10, puis mené en début de seconde mi-temps. Les Marseillais renversent une rencontre folle et réussissent un exploit en ayant réussi que 15 passes dans la moitié de terrain lyonnaise et en ayant gagné à la fin de la rencontre. Est-ce que pareil, autour du plateau, est-ce que vous avez vu la rencontre, Emmanuel?
Non, j'ai simplement écouté le résultat et j'étais quand même... J'avoue que je suis un petit peu marseillais parce que j'ai beaucoup d'amis marseillais et j'ai plaisir à leur parler de leur club fétiche.
Antonin, tu suis toi un petit peu la Ligue 1
Comme toi, moi je suis un fervent supporter de l'Olympique Lyonnais, donc
il y a du positif dans le négatif, on arrive à se regrouper, c'est très très bien. Bon, autre résultat important, le nul 3 partout de Lille et Strasbourg, le PSG accroché à Reims, ou encore le réveil de Montpellier victorieux à Auxerre en ayant mené 3-0. Ce dimanche était, vous l'avez compris, une belle journée de football avec tout d'abord le nul arraché également par Manchester City face à Arsenal à la toute dernière minute grâce à un but héroïque de John Stone, une parenthèse enchantée dans les dernières nouvelles sont mitigées du côté des Sky Blues. La malédiction des Gunners à Manchester n'est donc pas finie. Derby de la Banonina également en clôture de la dernière journée de Serie A. Le Milan AC renoue enfin avec le succès face à l'Inter grâce à un but là aussi dans les derniers instants de la rencontre de Matteo Gabbia. On va aller en Allemagne où on retrouve Guirassy buteur avec Dortmund contre son ancien club Stuttgart qui en rigole, s'en moque. La victoire ayant été acquise assez largement 5-1. Et puis pour rester en Bundesliga, le miracle Leverkusen épisode 453 a eu lieu avec une victoire arrachée à la 90e minute plus 3 grâce à Victor Boniface. Est-ce que vous avez regardé d'autres matchs autour du plateau de foot ce week-end?
Moi j'étais sur le Barça qui a mis 5-1 à Villarreal, mais surtout avec la blessure de Ter Stegen.
Ils ont croisé.
Non, c'est pas les coups, c'est Rosé qui prend les croisés.
Ouais, mais c'était Ter Stegen aussi.
Non, il me semble que c'était rupture du ligament rotulien.
Ah, peut-être. Alors, mais du coup, il est absent longtemps parce que du coup, ils vont avoir. Donc c'est énorme.
Ça fait mal.
Et par contre, moi, j'aimerais bien revenir sur le City Arsenal. Ouais, le score est beau, le scénario est beau, mais finalement, le match n'a pas été tant que ça. Et quand on parle souvent mal de notre Ligue 1, notre week-end de Ligue 1, plus les résultats des clubs français en Ligue des Champions la semaine dernière, on est parvenu dessus. Mais 3 victoires en 4 matchs, franchement, c'est beau pour le foot français. Par rapport au match qui a été plutôt ennuyant, j'ai trouvé, entre City et Arsenal, malgré le scénario qui rend un peu ce match beau.
Oui, c'est vrai. Bah, on a des stats qui illustrent un petit peu ça. C'est le nombre de passes de Jurrien Timber et puis de Kai Havertz dans la rencontre. Je ne sais pas si vous avez vu la statistique autour de la table. 0 passe durant tout le match. Voilà, c'est la première fois que ça arrive en première ligue, donc c'est assez parlant. On va continuer un petit peu dans le surprenant maintenant, puisque Étienne Capou serait devenu basketteur en D4 espagnol au Gitisca Rovens Leliana. Un match, 5 points, début prometteur pour l'ancien joueur de Villarreal qui lui n'a toujours pas de club dans le football. Et puis quelques mots sur le cyclisme également. Remco Evenepoel continue de marquer cette fin de saison et même l'histoire. Intouchable sur le contre-la-montre, il décroche son 2e titre de champion du monde après avoir remporté l'or aux Jeux Olympiques à Paris. Une fin de saison magnifique pour le Belge. David Godu, quant à lui, reste plus discret, mais après une belle 6e place sur la Vuelta, il a fait une belle performance cette semaine autour du Luxembourg. Il termine 3e au général, remporte la dernière étape avec brio devant les autres favoris. De quoi rêver un bon résultat la semaine prochaine au championnat du monde à Zurich. On l'espère. Passons à l'exploit de la jeunesse. Ça, on pourra en reparler également. Je ne sais pas si tout le monde a suivi. Paul Sexas, à 17 ans, le coureur français de chez Decathlon AG2R La Mondiale, a été sacré hier champion du monde de contre-la-montre junior, la catégorie 18-19 ans à Zurich. Peut-être est-ce que nous tenons enfin le cycliste qui nous fera rêver sur les prochains Tours de France, même s'il est encore beaucoup trop tôt pour l'affirmer. Flo, je sais que t'aimes bien le cyclisme, est-ce qu'il te hype, notre cher Paul Sexas?
Non, mais on a vraiment une très très belle génération qui arrive dans le monde du vélo en France, et puis on a un très bon sélectionneur. Il y avait une interview d'ailleurs de Thomas Vauclair hier dans l'Ouest France, qui expliquait un peu sa façon de faire pour sélectionner les coureurs. Donc c'est vraiment, on a vraiment un bel avenir. Maintenant, c'est sûr qu'il faudra avoir le moyen financier pour pouvoir rivaliser. Les équipes françaises n'ont pas les mêmes moyens que beaucoup d'équipes du haut niveau qu'on voit chaque été au Tour de France. Mais c'est vraiment de bon augure.
Et puis, on verra également si les vieux du cyclisme arriveront à cadrer les jeunes pousses qui arrivent. Ouais. Je vais finir avant de te laisser la main à Maury par de l'extra sportif maintenant. Pendant que certaines équipes françaises se préparent à l'Europa League, Vincent Labrune fait face à de nouvelles accusations, cette fois-ci pour faute de gestion. C'est le CVC qui réclame un remboursement de 1,5 million d'euros. Et puis côté Marseille, Mehdi Benatia va faire un tour devant la commission de discipline qui a été saisie hier par le Conseil national de l'éthique. En cause ses propos jugés complotistes. Et puis je vais également finir avec l'Arcom qui a annoncé que 1922 services illégaux diffusant la Ligue 1 ont été bloqués depuis le début de l'année. De son côté, DAZN, pour qui la donne ne semble pas avoir grandement changé, a décidé de prolonger d'une semaine sa promotion sur l'offre de Ligue 1.
Eh bien, merci déjà Mathéo pour cette début de chronique. J'enchaîne avec du rugby et un week-end en or pour Antoine Dupont qui a été élu meilleur joueur du top 14 pour la saison passée et donc il devient le premier joueur à obtenir trois fois le titre après 2021 et 2023. Mais ce n'est pas tout, il a aussi été élu meilleur bleu de rugby à 15 et à 7 confondus. Bon, c'est pas trop une surprise, j'ai envie de dire. Je pense que
non.
Ça, on aurait pu le prédire.
Exactement.
Toulouse, pour fêter les récompenses d'Antoine Dupont, contenu sans faute, en restant seul leader après trois journées grâce à un succès solide sur la pelouse de Montpellier 20-11. La Rochelle, quant à elle, se relance après sa défaite de la semaine dernière en écrasant la section paloise 49-25 avec 7 essais inscrits. Mais une mauvaise nouvelle tout de même, la blessure de Pierre Bougari, fracture du tibia, absence de minimum 4 mois, ça va peser du côté Rochelais. Et enfin, un mot pour Van, je pense que ça va être le rendez-vous hein, tous les mardis. Une belle victoire, les promesses se concrétisent enfin, victoire 30-20 face à Lyon, et donc une première victoire dans l'histoire du club et dans l'histoire du rugby breton. Franchement, bah c'est beau.
C'est beau, exactement.
On enchaîne avec du tennis. Ce week-end a également lieu la Laver Cup, en tennis, ce tournoi entre une team Europe et une team monde, amicale, mais avec de vraies batailles et qui est surtout super sympa à regarder. Décontracté entre les joueurs, mais des vraies batailles, comme je l'ai déjà dit. On a pu voir donc pas mal de matchs, des simples, trois doubles, et au final, c'est la Team Europe qui s'impose 13 victoires à 11 grâce à un dernier match de Carlos Alcaraz contre Taylor Fritz, que l'Espagnol a dominé 6-2, 7-5. Franchement, j'ai bien kiffé le format,
c'est
encore une fois.
C'est un beau format, inspiré du golf, hein, bien évidemment, avec les rencontres américaines Europe.
On enchaîne du coup avec le sport auto, la Formule 1, un nouveau Grand Prix et une nouvelle victoire pour McLaren, mais malheureusement, une course encore bien ennuyeuse, j'ai envie de dire. Donc Lando Norris s'impose tout de même devant Max Verstappen et Oscar Piastri. Côté français, Esteban Ocon et Pierre Gasly finissent hors des points. Heureusement, on a eu Charles Leclerc pour nous offrir quelques beaux dépassements, terminant la cinquième place, sauvant un peu l'intérêt de ce Grand Prix. Mais franchement, comme la semaine passée, on avait parlé, c'était plutôt ennuyant encore une fois.
Ouais, on va attendre la saison prochaine avec Leclerc Hamilton chez Ferrari. Je pense qu'on aura du beau spectacle. On va se quitter là-dessus sur le journal des sports. On va remercier le journal international des sports. On va remercier nos invités du jour, Emmanuel Leray et Antonin Perrault, d'avoir parlé avec passion du SCO hockey. Et on espère que cette saison sera
de leur poids et de leur puissance sur le terrain.
Exactement, voilà, que ça sera rattrapé. Synonyme de victoire et de maintien. Voilà, je cherchais le mot de victoire et de maintien. On se quitte là-dessus, on se redonne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission de Génération Sport. Ciao, ciao.